bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h.
Oui.
La bande originale avec Léa Cadourou-Dédé, Daniel Morin, Tom Village, Jérémy Crédville.
Bonjour.
Tout à l'heure, Tanguy Passureau et notre invité, Monsieur Jean-Hugues Anglard.
Bravo. Hey.
Tout va bien, Jean-Hugues ?
Très bien.
Merci de venir à ce micro et de ne pas avoir annulé votre venue après le succès du premier épisode.
Ah bah non, pourquoi
parce que carton, on peut se dire avec un carton comme ça, pas la peine de faire de la promo, je vais rester au lit tranquille lundi matin.
Non, je raisonne pas comme ça.
Bon,
non,
c'est
au
gentil.
Contraire, je viens pour,
c'est élégant. Pour parler de La Recluse, dans lequel vous interprétez à nouveau Adamsberg. Ouais. À nouveau, parce que c'est une longue histoire maintenant entre Fred Vargas et vous.
Oui, Fred Vargas, José Dayan et moi-même, oui. Finalement, c'est un personnage...
C'est un triangle amoureux, là. Vous nous parlez d'un triangle amoureux, tout d'un coup.
Carrément.
Mais
oui,
ouais, enfin, ça.
Amoureux, oui.
Ah
oui,
non. On va relativiser.
On relativise. On rigole de la cascade, là, quand même.
On relativise. Non, mais on a fait déjà, comment dire, une collection de des Vargas il y a une dizaine d'années avec...
Quatre fois, non?
José Dayan, oui, c'est ça. Et puis là, sur le dernier Vargas, quand sort La Recluse, c'était un gros bouquin. On l'a fait en deux films d'une heure et demie.
Et ouais. Avec un succès d'audience réalisé la semaine dernière pour la première partie dans laquelle vous interprétez, ça sera diffusé donc mercredi prochain 21h pour la deuxième partie. On va évidemment en parler, mais d'abord
quoi ?
Ma question, des questions, des interrogations sur Jean-Hugues Anglade. Ça lui arrive moins souvent, mais il fut un temps où dans les films Jean-Hugues Anglade faisait la même chose. Quoi ?
Il tuait des gens.
Non, on lui demandait toujours de faire la même chose.
Des flingues.
D'apprendre la nudité, c'est la nudité.
Exactement.
Ouais.
Hein ? On vous mettait souvent nu.
Oui, c'est ça. Ouais. À poil.
Mais moi aussi, mais je tourne aucun film.
Oui, mais tu tournes aucun film et personne n'en parle.
Bah oui. Non, voilà. C'est les castings, c'est pour ça.
Ah oui. Pardon, est-ce que la formule est toujours la même ? Ça dépend si le rôle le nécessite ou pas, ou finalement vous jouez le jeu en disant bon bah écoutez, ça vous fait plaisir, je vais vous le montrer. Mais...
écoutez, c'était une époque aussi. Hein. C'était l'époque où j'étais plus jeune,
70.
J'ai déjà, et j'avais. Et c'était plutôt une époque où les gens se déshabillaient beaucoup au cinéma. Dans les années 80, c'était faire preuve d'audace que se dessaper devant la caméra. Et ça s'est beaucoup pratiqué. Et puis maintenant, ça s'est calmé. Maintenant, on est revenu à des trucs plus suggestifs. Ça tombe bien parce que le corps, lui, il change aussi avec les années. Et il y a certaines choses qui vont mieux cacher.
Sauf en maillot de bain, ouais.
Une gêne, est-ce que vous êtes un pudique ou pas? Comment vous vivez le rapport pudeur-caméra et...
Alors, du point de vue global, la caméra est plutôt quelque chose que je vis sur des rapports amicaux. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de complicité, c'est assez fusionnel. J'ai un rapport très très serein et très...
C'est étonnant de parler comme ça de la caméra que vous êtes censé ne jamais regarder, ne pas voir, parce que c'est bizarre d'être fusionnel ou d'avoir un rapport de proximité avec
un
objet ou l'iris de quelqu'un que vous ne regardez jamais.
Oui, c'est vrai, ça a toujours été c'est quand même une tierce personne, si vous voulez, elle me protège, du monde extérieur et en même temps me permet de lui parler à ce monde extérieur.
Mais j'en reviens toujours au même point, même une tierce personne, elle est là, elle est présente, vous ne la regardez pas, vous ne lui parlez pas. C'est étrange.
Oui, je ne l'explique pas autrement.
De la personnifier, non mais pardon.
Oui, je la personnifie.
Nous à la télé, on peut dire oui, on s'attache à la caméra, on la regarde, on plonge notre regard dans le sien. Il faut qu'on l'apprivoise et qu'on on l'humanise.
C'est un peu un mystère pour moi la caméra, parce que je sais c'est qu'elle a des pouvoirs endoscopiques, c'est-à-dire qu'elle est capable d'aller chercher
des choses que vous ne voulez pas montrer.
Des choses que j'ai envie de montrer. Et que je ne peux faire que cinéma, parce que la caméra a cette capacité d'aller chercher la moindre vibration, la moindre oscillation.
Au plus profond, ouais.
Au plus profond. Moi, c'est ce que j'aime. C'est pour ça que je la respecte beaucoup aussi. J'ai toujours été J'ai toujours une fascination pour le, pour la.
Vous regardez beaucoup. Cet objet. Vous regardez beaucoup les images, ce qu'on appelle au combo, c'est-à-dire l'espèce de retour vidéo que l'on a maintenant à côté des caméras. Vous allez non. après une prise aller voir ce qui s'y passe.
Non. 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 Rarement. Rarement. Je vois aussi avec difficulté les films que je tourne. En fait, je les ai vécus de l'intérieur, donc voilà, je ne suis pas comment dire un fan de moi-même quoi.
On va en reparler de ça dans quelques instants et surtout évidemment à propos de la réalisation de José Dayan. Revenons à justement peut-être pas la nudité, mais le maillot du grand bain.
Ouais.
Ce maillot de bain que vous avez porté, énorme succès pour le film Le Grand Bain. Quelle figure dans l'eau Jean-Hugues Anglade avait beaucoup de mal à réaliser? C'est pas simple, hein, la natation synchronisée.
La tête en bas
Non.
Quoi, le rétropédalage tout simplement, là, le fait de se tenir debout, de se hisser.
C'est un truc connu.
Le cygne.
C'est un truc connu, ouais. C'est un truc super connu. Non,
non,
ouais.
Non c'est le pas un crawl. Truc connu.
C'est un truc, super, c'est un truc super connu.
Ah, un saut, sauter déjà.
Non. Non. Ça s'appelle un plongeon.
Oui, c'est oui. Ça.
Ouais. Nager.
Non. Non.
Nager. Le pédiluve. Il avait des mal avec le pédiluve.
La méduse.
Non. C'est quoi la méduse?
La planche.
La méduse, c'est un truc technique.
Exactement, la planche.
C'est vrai que c'est connu.
C'est dur,
c'est super connu, la planche. Ouais. Et donc c'était dur.
En fait, il faut s'immerger pour s'émerger.
C'est pas ça. C'est dur de faire la planche et de bouger les bras en même temps.
C'est ça. C'est ce qui vous permet de.
Ah oui, vous
ne voyez pas, vous voyez pas la radio, mais il le fait là. Ah bah là oui.
Voilà. Il faut barboter comme ça, comme une petite grenouille.
Il est en train de barboter.
Mais avec les bras. Et c'est ce qui vous permet de rester sur le dos et stable.
Il barbote voilà. Encore.
Mais sinon, c'est la tasse assurée.
Vous avez pris combien d'heures de cours pour réaliser le grand bain?
La planche.
On a eu la peine plancher. Oui.
C'est vrai, non mais. Non.
Ok, ça.
Non mais vous avez souffert? Plus que
bah,
pour un autre.
Non, c'est-à-dire qu'on était toute une bande, donc on se marrait bien avec Poulvord. C'était assez drôle, avec Philippe Catherine aussi. Donc on était tous. On était tous assez motivés, mais c'est vrai que...
Sans jamais avoir aucune notion de danse synchronisée, enfin de nage synchronisée.
C'est dur d'acquérir, hein d'acquérir un semblant de technique. Ça met des années et des années, mais on a été aidés, on a été, comment dire...
Coaché.
Aussi un petit peu doublé. Faut bien le dire. Faut bien le dire. Ça n'enlève rien, non, comment dire, au fond, à l'originalité du.
Une petite déception quand même.
Du scénario.
Ce que j'aime bien, c'est que cette figure de la planche avec les
vibrations,
les bras qui bougent. Vous dites, c'est la grenouille. Oui. Donc, or moi, j'avais un nom beaucoup plus cinématographique, l'étoile. Mais
c'est joli.
C'est pour la communication, peut-être. Ils appellent ça l'étoile. En fait, c'est le crapaud, quoi. Ouais,
oui, oui. C'est...
les placards de Jean-Hugues Anglade sont pleins. Mais de quoi?
De shit. De nourriture?
Non. De shit.
De vêtements de la même couleur.
De quoi?
De vêtements de la même couleur.
Non.
De linge de maison?
Non.
De produits de beauté?
Non.
De jeux?
De graines?
De chaussures?
Non.
De vêtements qui ne sont pas
alors
les siens?
Ça peut être un
de
peu.
De livres?
Un peu tout ça.
De gens morts?
Non. Ah, alors, il y en a, mais c'est pas ça.
De choses qu'il récupère, des choses qu'il ne peut pas jeter, des objets d'enfance, des jouets.
Des brocantes.
Il récupère de.
Des tournages.
Exactement. Des souvenirs de tournage dans vos placards.
Oui.
Mais vous piquez des trucs?
Bah oui.
Avec l'accord.
Oui.
Enfin, quand ils en ont plus besoin, quoi. Pendant le tournage.
Même.
Non, parce que sur un policier, ça peut manquer quand même. Un indice comme ça que vous avez volé pour le mettre dans un placard, non?
Oui, non, mais là, c'est des souvenirs. Parce que j'ai la nostalgie des films. Et donc, j'emporte toujours quelque chose qui me plaît.
Un objet du décor, vous dire.
Figurant.
Non, mais ça peut être un petit objet du décor ou ça peut être
une comédienne.
Ça peut être une comédienne aussi. Mais celle-là, je la perds assez rapidement.
Ça sent le vécu. Est-ce que vous gardez les claps, par exemple, sur les tournages?
Oui, j'ai des claps. Essentiellement, oui. Mais oui, effectivement. Mais ça.
Et les costumes des personnages.
Les costumes, oui. Les costumes de 37.2, par exemple.
Mais non, vous êtes nus.
Il les a tous.
Vous l'avez toujours sur vous, celui-là.
Non, mais j'ai des vieux sweaters, des vieux sweats de 37.2 que je garde.
Et que vous reportez ou pas, ou vous les mettez juste dans le placard?
Non, ça m'arrive de les reporter.
C'est fou ça.
Ouais, comme ça, une journée ou deux.
Ça doit être drôle de vous croiser dans la rue avec un.
Ça
vous replonge.
Oui, on peut me croiser dans la rue avec un.
Une tenue de film.
Un sweater. Mais enfin bon, je le. Généralement, je le mélange avec des autres, avec des vêtements de ville, etc.
Discrètement. D'accord. Il y a justement un film tout aussi célèbre que 37-2, on appelle ça un succès du box-office, que Jean-Hugues Anglade. Alors, à l'époque de l'interview, n'avait toujours pas vu.
La Reine Margot.
Il y a 3 ans.
Subway.
Ah, il y a 3 ans.
Il y a 3 ans, il n'avait toujours pas vu un film.
Nikita.
Énorme succès au box-office.
Nikita.
En France. Non.
Il était dedans.
Les Tuches.
Non.
Il n'était pas dedans.
Non.
Il n'était pas dedans.
La Grande Vadrouille.
Ah,
le Cornio.
Titanic.
Quelle époque.
Bienvenue chez les Ch'tis.
Un film français.
Bienvenue chez les Ch'tis.
Mais d'il y a 3 ans ou plus.
Intouchable.
Un gros classique.
Intouchable. Très bien. Il y a 3 ans, vous n'aviez toujours pas vu Intouchable. Est-ce que
non, j'ai pas vu. Non.
Toujours voilà. Pas.
Non, toujours pas.
Mais c'est pas obligé.
C'est pas grave.
Non, c'est pas. Enfin, oui, non, c'est pas obligé.
Non, mais si c'est un bon film, et je crois que c'est un bon film, j'irai le voir avec grand plaisir.
Non, c'est un bon film.
C'est juste que.
Clusé a gardé le fauteuil.
Dans le placard, mais ça rentre pas.
Et Omar la Maserati.
Et alors, pardon, mais ne pas passer, enfin ne pas voir.
Mais c'est pas bien.
Je sais. Non, c'est pas ce que j'allais dire. C'est pas ce que j'allais dire. Mais dans votre métier, est-ce qu'il n'y a pas une obligation d'être au courant de tout ce qui se passe?
Ou de qui fait quoi? S'il faut voir tous les films qui vont au César, par exemple, c'est.
Il y a des coffrets maintenant pour ceux qui votent.
Ah oui, mais justement, je veux dire, quand on t'envoie tout ça et qu'il faut visionner.
C'est un boule à temps plein, ouais.
C'est un boule à temps plein, c'est.
Donc vous avez reçu le DVD d'Intouchable et vous l'avez pas vu? Puisque vous votez
oui,
pour le César.
Non, je ne l'ai pas vu, je le regrette. Je vais réparer ça dès ce soir.
Je voulais qu'on le regarde maintenant, là. Il y a des écrans, il y a des retours.
Non, mais j'ai pas.
Ok. Alors, que fait Jean-Hugues Anglade après un tournage?
Il pique des trucs.
Par rapport au film qu'il vient de tourner.
Il essaie de sortir du personnage, de quitter le personnage, de faire le deuil.
En rangeant les vêtements dans le placard.
Oui, voilà.
Non.
Il garde le script.
Non. Ah, il y a des scripts qui valent une fortune. Avec les annotations des réalisateurs, ça vaut des fortunes.
Il essaie de trouver tout de suite un autre rôle pour.
Non.
C'est lui qui organise les fêtes de fin de tournage.
Non, ça peut être un bon job, mais non.
Il continue à réunir l'équipe.
Non.
Voire à entretenir.
Il reste
dans
son personnage pendant un moment.
Non.
Pendant des vacances.
Qu'est-ce qu'il fait après le tournage d'un film?
Par rapport au film. Il vient tourner un film.
Ouais.
Que fait-il par rapport
au film? Il retourne la toute première scène.
Un jour sans fin. Un jour sans fin. I got you, babe. Non, pas du tout.
Qu'est-ce que par rapport au
fait exactement
film,
le contraire.
Non. C'est-à-dire.
Le film n'est plus entre ses mains. Il essaie de demander d'assister au montage, d'être présent sur la suite de l'histoire.
Justement, non.
Ah, il s'en va.
Il l'oublie.
Il fait une croix dessus. Il s'en va.
Donc.
Il tue le réalisateur.
Il vient tourner un film.
Ouais.
Il le détourne.
Il a fait un autre.
Un film dans lequel il est.
Oui.
Qu'est-ce qu'il fait par rapport à ce film-là?
La promo?
Non.
Bah, je sais pas, ça prend du temps de faire le film après.
J'attends la réponse avec grande impatience.
C'est le bip de la honte.
Vous ne le regardez pas?
Bah oui, mais il l'a dit tout à l'heure.
Bah,
oui.
Non, qui a dit ça?
Mais si.
Jean-Hugues.
Ah, mais c'était pour la question d'avant.
Non, c'était pour Intouchable, ça n'a rien à voir.
C'était Intouchable,
on
ne
parlait
pas
avant.
Non?
Non, c'est le début de l'émission.
Je ne vais pas se regarder.
Ah, vous ne regardez pas.
Par rapport au.
Voilà, non, c'est quand on parlait de la caméra.
Ouais.
Il est combat, il est film.
Non, mais je vois de toute façon.
Non,
il n'avait pas dit.
Non, il n'avait pas dit.
Sur exercice de mauvaise foi de Nagui, c'est parti.
Non, non, du tout.
Surtout que.
Entre ne pas aller voir une scène que l'on vient de tourner et ne pas visionner un film dans lequel on
joue. Je m'en fous, j'appelle
le rédacteur. C'est un nom
après.
Moi, j'ai une objection. À partir du moment où.
Je vois le film quand même. Une fois.
Ah.
Voilà, mais pas deux.
Donc, donc là, il y a du licenciement dans l'équipe. Que... On est passé au prud'homme, tu vois.
Dès la fin du tournage, il n'y a pas le film qui sort direct. On peut pas le voir.
La question était mal formulée. C'est pas grave.
Vous avez déclaré, je ne regarde jamais les films dans lesquels j'ai joué, j'ai tourné. Voilà.
Vous avez vu La Reine Margot quand même. On décale Intouchable, mais en priorité, on regarde La Reine Margot, je vous le dis tout de suite.
Dites la vérité, Jean-Yves.
Très surfait, La Reine Margot.
Mais tu plaisantes, en tout cas, c'est un chef-d'œuvre.
Non, il l'a pas vu. Non, il l'a pas vu.
Si, j'en ai vu des bouts.
Mais non, c'est pas possible.
J'ai vu le M1.
Mais c'est le plus beau film.
Il l'a pas vu, Lens. Il l'a pas vu. Respecte sa différence.
C'est fou, vous n'avez pas vu La Reine Margot, quoi. Ah ouais, ça me donne envie de chialer.
Bah vas-y, fais-toi plaisir.
En même temps, j'aimerais
bien
être à votre place parce que du coup, je découvrirai aujourd'hui un film magnifique.
Non, mais je le découvre dans le comment dire.
Non, c'est pas possible.
Dans vos yeux, là.
Je le vois dans les yeux des gens et.
Ouais, non, mais là, c'est trop.
Voilà, vous voyez la déception.
Soyons honnêtes. Alors, soyons clairs. vous ne regardez pas.
J'ai envie de chialer, vraiment, je te jure, c'est terrible. C'est, la Reine Margot, c'est un des plus beaux films que j'ai vu.
Vous ne regardez pas.
C'est indécent, je trouve. C'est indécent de se regarder.
De se regarder soi-même. C'est ça, c'est
pas... Jouer, oui.
D'accord. Donc vous ne regardez pas les films dans lesquels vous êtes, vous ne regardez pas les films dans lesquels vous n'êtes pas, parce qu'un touchable non plus, vous l'avez pas vu.
Vous n'aimez pas le cinéma. Vous n'aimez pas le cinéma. Vous n'aimez pas le cinéma.
Écoutez, vous m'avez demandé une playlist, hein, c'est pas par hasard, en fait.
Vous aimez la musique.
J'aime la musique et j'écoute la musique.
Très bien.
Plutôt que d'aller voir les films.
Ce qui veut donc dire, à propos de La Recluse, ou quand sort La Recluse, dans lequel vous interprétez le commissaire Adamsberg de Fred Vargas ce mercredi, vous ne l'avez pas vu.
Si, je l'ai vu.
Ah, alors c'est pas possible.
Si, je l'ai vu.
Alors vous n'avez pas pas le droit de voir quand sort La Recluse et de ne pas voir La Reine Margot. C'est ça.
Ah oui, là, ça, je suis catégorique.
Oui, non, mais c'est vrai que c'est.
Est-ce que ça vous rappelle de mauvais souvenirs, La Reine Margot?
Non, pas du tout. Non, c'est au contraire, c'est de très, très, très bons souvenirs. Avec toute la bande d'acteurs qu'il y avait, Patrice.
Vous ne voulez pas abîmer ses souvenirs en voyant le film?
C'est ça.
Ben ça peut me blesser, ouais. Ça peut être. Je suis assez enclin à la mélancolie sur des films qui ont compté beaucoup dans ma carrière.
Vous êtes un enfant de Patrice Chéreau, donc
ça que... mal. Ouais. Et ça me fait un peu mal de voir des... Ouais.
Ça peut se comprendre.
Ne le regardez pas, non.
Non, mais ça, il dit comme ça, je comprends, ouais, vous êtes vraiment dans un des enfants de Patrice Chéreau, donc je peux entendre aussi que ce film-là qui a fait date, ça soit un peu complexe à voir.
Est-ce que vous pourriez comprendre, alors Patrice Chéreau n'est plus avec nous, mais est-ce que vous pourriez comprendre qu'un réalisateur dont vous parlez comme ça soit un peu vexé que vous ne regardiez pas son œuvre, son travail? Même en parlant de pudeur, même en parlant justement de ne pas abîmer un souvenir passé, mais soit touché.
Non, je pense que Chéreau le
prendrait pas mal.
L'aurait pas mal pris. Non, je sais pas. Je crois qu'il était lui-même. Vous savez, c'était quelqu'un qui était hyper actif. Donc en fait, il passait d'un projet à un autre. En fait, il n'était pas passé. Il passait toujours à autre chose, il avançait tout le temps et en fait, il ne restait pas,
c'est limpide, on a compris.
Parlons donc de cette deuxième partie. Alors, pour avoir vu les deux parties, je sais plus à quel moment ça s'arrête. Mais enfin bon, le pitch. Le pitch, il y a trois vieillards. On va rappeler quand même. Trois vieillards, sont morts à quelques mois d'intervalle après avoir eu des piqûres d'araignées. Même le premier épisode commençait par des meurtres en série. On essaye d'illucider.
Bravo. Je vous laisse faire le pitch parce que c'est...
Vous l'avez pas vu.
C'est assez compliqué. Non, mais j'ai lu le scénario, j'ai lu le bouquin, suffit. Et après.
Non, mais vous êtes en vacances, on vous rappelle, on vous sort de votre.
Oui, voilà,
de vos vacances en Norvège, au bord d'un lac à la pêche.
Une norvégienne.
Exactement. Et donc là, vous vous retrouvez à nouveau avec votre équipe. Une bestiole qui aurait muté après avoir ingéré trop de pesticides. Il y a cette recluse, qui est à la fois le nom d'une araignée et qui peut être aussi le nom d'une personne qui reste enfermée ou qui est enfermée de force.
Volontairement,
Et donc il y a toute une série de meurtres en se demandant mais pourquoi et comment d'abord
une petite araignée aussi, une petite araignée inoffensive qu'une recluse, parce que c'est des petites araignées qu'on a partout chez nous, surtout en Occitanie, dans le sud de la France. Mais comment une petite araignée, peut tuer avec du venin ou très sérieusement blesser des enfants,
qui n'a pas assez de venin pour tuer une personne adulte.
Non, donc en fait il en faut beaucoup et voilà. Et donc
on est quand même. Alors arrêtez-moi vite avant que je dise une bêtise.
Stop.
Est-ce qu'on en est déjà à l'enquête du pensionnat au début du
dans la deuxième partie?
Je sais plus. Il y a un pensionnat, en tout cas, on parlait de ce pensionnat où
ça joue sur plusieurs générations et en plus ça concerne Adamsberg aussi. Le vécu même d'Adamsberg quand il était jeune. Donc en fait, c'est un.
Il y a un psy, il y a un psy, il y a le fils d'un psy, c'est Pierre Arditi, hein, qui joue le rôle du fils d'un pédopsy, qui est lui-même d'ailleurs psy. Et il y a toute une analyse qui est faite sur la maltraitance qui a pu y avoir lieu dans ce pensionnat.
Oui.
Et éventuellement un règlement de compte, une vengeance.
Absolument. Et c'est très difficile parce qu'il y a beaucoup de diverticules.
Ouais.
Oui. Oh chemin qui ne mène nulle part.
Je suis très fier de ce mot. Parce que...
diverticules.
Ouais. Oui, c'est-à-dire en fait des
C'est employé par Spitzer dans le
des chemins qui mènent nulle part.
Des impasses.
Donc en fait, ouais. C'est un ça fout un peu le vertige et ça a été assez compliqué pour moi de faire ces deux romans cross-bordés, voyez, parce que il y avait énormément de textes. C'était très bavard et toutes ces hypothèses.
C'est très écrit, oui.
Très écrit. Très bien adapté, bien sûr, par Emmanuel Carrère. Mais
c'est quand même dur à jouer quand c'est trop écrit.
C'est très dur de jouer les flics en général parce qu'on peut pas improviser, on peut pas dire n'importe quoi et il faut rester très exact dans les hypothèses qu'on a.
Le verbe est moins naturel et plus écrit. Ouais.
Oui.
Ouais. D'autant que là c'est du policier vraiment de qualité. C'est ce qui est beau dans Fred Vargas. Mmh. C'est ce qui est beau aussi dans le résultat de ce film en deux parties. C'est que on n'est pas sur du dialogue standard de série contemporaine de policier où tout d'un coup on a la police scientifique qui vous explique que si on a retrouvé tel élément là, ça veut dire que c'est pas fou comme ça, et c'est ce que j'adore moi chez Fred Vargas. C'est que votre personnage, qui est un commissaire emblématique, Adamsberg, c'est un homme de l'intuition et c'est un homme aussi du verbe, donc forcément tous les dialogues sont soignés. Ça me fait penser un peu aux séries d'il y a quelques années policières où tout d'un coup on sent que le dialogue il est central, et justement le travail sur la langue dans cet épisode là aussi il est très important, les mots qu'on dit à la place d'autres, les intuitions, comment votre personnage justement s'en sert pour résoudre l'enquête. C'est ça aussi qui est très appréciable.
Fait. C'est une vision très, très, très intelligente de, et très pertinente de l'écriture de Vargas, qui est à la fois très littéraire et en même temps, qui sert une intrigue qui avance avec des, je vous dis encore une fois, des impasses. Et c'est très passionnant de voyager avec l'univers de Fred Vargas. C'est quelqu'un qui est tout à fait hors du commun, quoi.
Vous la lisiez avant déjà en tant que
scénario? Alors je travaille le scénario et je lis en même temps. D'accord. Si je ne comprends pas certaines choses dans le scénario.
Pour approfondir avec le livre.
J'apprends avec
le roman. Casting de luxe autour de vous, Jean-Hugues Anglade, oui. Jacques Spitzer, Sylvie Testu, Elisabeth Depardieu, Jérôme Kercher, Thierry Ancis, Aymeric de Marigny, Julia Duchaussoy, Jacques Bonafé, Christian Vadim, Issaka Sawadogo, Corinne Maziro, évidemment, Pierre Arditi dont on a parlé, tout ça réalisé par José Dayan. La deuxième partie de Quand sort la recluse, c'est ce mercredi. Ça a été un succès pour la première partie, mais comment imaginer que ceux qui ont fait le succès de la première partie ne veulent pas connaître la chute ou la suite, à moins d'avoir lu le livre. Mais
ce que je me dis aussi. Oui.
Évidemment. Donc il y a forcément mécaniquement plus. Il y a ceux qui ont rattrapé avec le replay et ceux qui veulent voir donc carton annoncé, et tant mieux pour
merci,
vous. C'est un succès annoncé, Tom.
Vous l'avez dit.
Merci.
Bonne émission.
C'est bien, on gagne du temps.
Je refais l'intrigue rapide pour les gens qui arrivent à 11h28. Donc, ça tourne autour du décès de trois personnes âgées qui auraient été tuées par une araignée. Déjà, c'est marrant parce qu'en France, trois vieux qui se font piquer par une araignée, c'est un meurtre. Alors qu'aux États-Unis, un jeune qui se fait piquer par une araignée, ça donne Spider-Man. Mmh. C'est pas juste la vie quand même. Moi, je voulais être Spider-Man quand j'étais petit. J'allais le week-end, tous les week-ends en forêt. J'allais essayer de me faire mordre par une araignée. Et j'avais aucune conscience du danger. Puis même, admettons que je deviens Spider-Man. Pourquoi faire? Spider-Man, il vit à New York, il se balade de toile en toile, qu'il lance sur les buildings. Moi, j'ai grandi en Seine-et-Marne. Il n'y avait pas de building de 80 étages, il n'y a même pas de cité. La plus grande tour de mon village, c'était le château d'eau. Franchement, Spider-Man en Seine-et-Marne, c'est pas un film, c'est du côté de chez vous sur TF1, c'est 1:30 avec le sponsor. Alors, je me suis renseigné parce que la recluse brune, elle existe vraiment. C'est l'araignée mortelle de la série. Et selon des spécialistes que j'ai trouvés sur Internet, je cite, ouvrez les guillemets, tant que vous ne la dérangez pas, le risque de morsure est donc faible. Donc là, tu dis, eux, c'est des spécialistes. Donc heureusement qu'on n'est pas tombé sur des mecs lambda, parce que Un faux scoop pour éviter les accidents de voiture, prenez pas la voiture. Ah bah ouais, ça doit être des mecs qui bossent sur BFM TV, je pense. Non, mais c'est arrêté. Et bah en fait, c'est formidable. En fait, la recluse brune, c'est comme Jean-Luc Mélenchon, tant que tu l'esquives, elle t'attaque pas. Tu vois, c'est ça. Mais comment tu sais si tu déranges ou pas une araignée? Parce que Jean-Luc, si tu lui poses pas des questions ou que tu fais pas une perquisition chez lui, il va pas t'embêter, mais l'araignée, en tout cas la recluse brune, on a aucun signe. Et puis là encore une fois, des spécialistes nous donnent de très bons conseils. Je cite encore, ouvrez les guillemets, lors d'une visite au grenier ou à la cave, quelques ajustements sont recommandés. Rentrez le pantalon dans les bottes et scotchez les bras de votre pull à des gants. C'est une araignée ou c'est un tigre? Comment c'est? En tout cas, Fred Varia s'est dit, bah tiens, donc là, on a fait tous les hommes, on va passer aux animaux, aux insectes, et puis dans 10 romans, ça a pu tourner autour des bestioles, mais des plantes. Ça va être un ficus, à mon avis, le tueur. Je pense que c'est ça. Non, mais en fait, les insectes, ils nous sont très utiles, mais on les aime pas trop. Bah, vous savez quoi? En fait, c'est un juste retour de la nature, parce que dans les morcons, oui, je pense que mourir piqué par une araignée, ça en fait partie. Mais mettez-vous de l'autre côté pour les araignées mortes écrasées par une tongue, ça aussi c'est une
allez, bonne émission.
Merci Tom Bill. France Inter,
Maggie, la bande originale. Jean-Hugues Anglade avec deux personnages. Vous jouez,
moi
votre
et mon
frère.
Vous,
ouais.
En plus.
Avec. Non, mais c'est extrêmement mais bien fait parce que.
C'est fatigant.
Non, mais c'est oui, c'est... C'est schizophrénique, quoi. Comme...
On doit trouver quoi de manière d'articuler, de jouer. Non, le débit est différent.
Non, parce que tout ça se voit. Alors, il faut pas que ça se voit, en fait. Et donc, en fait, il faut.
Donc, c'est la coiffure qui change un peu, c'est ça. Il y a une mèche.
Non, oui, les habits et puis l'humeur aussi. Le personnage d'Adam Zwerg est beaucoup plus tourmenté. Et en plus, là où on. Les scènes dont on parle.
Il a des cauchemars.
Il est mal parce que cette histoire de recluse évoque quelque chose de bizarre qu'il n'arrive pas à se formuler.
De son enfance et son frère, lui, c'est très bien
va
l'aider, le problème. Ouais.
Va l'aider à comprendre ce qui s'était passé par rapport à son enfance. Donc, je le joue. Je le joue moins tourmenté.
Est-ce que c'est amusant de jouer deux personnages dans un même film qui se font des scènes qui se répondent comme ça de manière différente? C'est carrément un exercice pour un acteur.
Oui, c'est ce que disait Jeremy Irons dans
Faux-semblant.
Dans Faux-semblant, oui. Il disait justement que il avait un personnage, l'un des personnages, il le jouait en le vivant, vraiment d'une façon cérébrale, et puis l'autre d'une façon beaucoup plus viscérale. Voilà, donc je ne sais pas trop, c'est un peu vague tout ça, mais...
Non, mais c'est pour ça que je parle
d'amusement. Je crois qu'on arrive à trouver des fenêtres pour asseoir un personnage aussi... La jumélité pour la... Il y a... Je ne sais pas comment expliquer, mais je crois, pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, que c'est surtout une question de couleur, qui diffère, et le frère qui arrive au secours et qui se porte au secours de son frère pour l'aider à aller mieux, et voilà, et qui visiblement a une vie beaucoup moins, tourmentée,
oppressante, ouais,
et angoissante et anxiogène qu'Adam Zwerg.
Et c'était toujours le même acteur qui vous donnait la réplique?
Oui,
quand...
et alors il me ressemblait beaucoup. C'est marrant.
C'était un miroir.
En beaucoup moins beau.
Ça va de soi.
Un miroir des formes.
Ouais. Même celui-là. Non, je te garde.
Voici Jérémy Crétil.
Bon, on le sait tous, c'est pas un secret, hein. Game of Thrones vient de faire son retour, et avec elle, les gens qui spoilent. À cause d'eux, on est condamné à passer nos lundis mains sur les oreilles à faire na-na-na-na-na-na-na. Le QI de ces gens, il est marqué sur leur semelle, c'est leur pointure. Tu connais la fin de Roméo et Juliette, ça t'empêche pas de lire l'histoire. Et encore, celui-là, il est chose grand. C'est des Trump. Les gens, ils peuvent te gâcher une journée en un statut. Je les déteste, eux et le surimi. Alors aujourd'hui, pour me venger des gens qui divulgagent, je vais spoiler tout ce qui va arriver ailleurs que dans Game of Thrones. Durant cette émission, déjà, Nagui va me couper la parole en plein milieu d'une vanne, ce qui fait que la chute, comme le petit Grégory, tombera à l'eau. Le 24 avril, je ferai rire Daniel Morin avec une histoire de vieille qui tousse. Dans 3 mois, Leïla, hospitalisée pour une cirrhose, déclarera à l'accueil des urgences « Mais je savais pas, moi, qu'il y avait de l'alcool dans le whisky. »
C'est vrai.
En 2022... En 2022, les jeunes qui ont 15 ans aujourd'hui auront l'âge de voter. C'est donc Maître Gims qui remportera l'élection présidentielle.
Yes.
À cette occasion, il sortira un nouveau single intitulé
« Je suis le président, le mot costume, pas le fromage qui sent ».
Un ministère, de la langue française sera créé et dirigé par Jules, un ministre très impliqué puisqu'il annoncera « S'il faut que je vais dans chaque lycée pour dire des choses, j'irai ». Le ministère de l'écologie, quant à lui, sera remplacé par le ministère de la connerie, hein, beaucoup plus populaire et plus économique parce que autosuffisant. En 2029, faute d'audience, l'animateur vedette de l'émission Taratata sera remplacé par Cyril Hanouna, qui rebaptisera l'émission Tatouroté. Eddie Depreto,
c'est possible.
Ouais,
possible.
Eddie Depreto rôtera la fête de Troyes en duo avec l'hologramme de Dalida. En 2036, Hélène Ségara, et on ne l'a pas retrouvé. C'est cadeau, c'est pour toi Daniel.
Merci.
2065, Internet a gagné. La télé n'existe plus, les animateurs historiques comme Nagui, Jean-Luc Reichmann et Laurie Bellotro sont morts et enterrés depuis longtemps. Laurie Bellotro, oui. Cherchez pas, vous la connaissez pas encore, à ce jour son père vient de rencontrer la sœur de sa mère. Michel Drucker continue, lui, à animer Vivement Dimanche en direct sur YouTube. 2123, l'avion transportant les candidats de la finale à l'Eurovision s'écrase. Le candidat français est le seul survivant, il parvient quand même à perdre le concours. 2267, le poids moyen des Américains dépasse la barre fatidique des 300 kilos. Massé à l'est du pays suite à la sécheresse, celui-ci bascule sur lui-même, précipitant tous ses habitants dans l'océan Atlantique à Cor Arena. Le dernier beluga vivant profite de la situation et se reproduit avec Kathleen, une habitante du Michigan, qui accouchera d'une créature mi-américaine, mi-humaine, baptisée Timothée. 2268, suite à la montée des eaux brutales au moment où Kathleen perd les siennes, Strasbourg devient la station balnéaire la plus fréquentée de France. Strasbourg, dont le maire Helmut en 2268, est un bretzel. 2475, enfin, le dérèglement climatique, les guerres et donc le ministère de la connerie ont eu raison de l'humanité. On est tous morts, comme dans Game of Thrones, en fait. Mais terminons cette chronique maintenant de façon plus guillerette avec François Claude, un électricien reconverti dans la chanson.
Je vais chier une pendule si jamais demain je croise Mehdi et qu'à 14h il me dit qu'il a regardé ma série et puis qu'il me l'a pourri en me disant que le héros s'est fait tuer comme un blaireau. Oh. Mais l'épisode je l'ai pas vu. Pourquoi tu me l'as dit? Oh, pourquoi ces gens-là font pas preuve d'autocensure? Se taire pour eux c'est trop dur. Ils sont trop lourds, ces têtes de rats. Faudrait les buter, c'est sûr. Leur faire manger du bromure avec du boulgour.
Wouh, je vous fais pas le refrain.
Ça, ça va et ça revient. Merci. Je vais
faire le la vie sur France Inter.
Justement, la musique, une autre musique, celle qu'écoute Jean-Hugues Anglade, notre invité. Je le rappelle, il sera mercredi dans la deuxième partie de Quand sort la recluse, le Fred Vargas réalisé par José Dayan.
Sur France 2
J'ai tout dit sur France 2 ?
Je crois pas.
Cette chaîne. Pourtant, c'est téléphone sonne, Nagui.
C'est une chaîne prometteuse, hein, vous devriez y songer.
Écoute, c'est à force de vouloir éviter de parler de France 2 que, tu vois, j'en fais même plus la promotion. Donc, sur France 2, mercredi, Jean-Hugues Anglade, en 75, vous écoutiez l'excellent Pink Floyd. Quel album! En plus, il s'écoute du début jusqu'à la fin avec une fluidité, parce que tout s'enchaîne. Hein, c'est un concept album.
C'est magique.
Pink Floyd. Vous passiez vos quoi, des après-midi, des nuits à les écouter. Ça vous évoque quoi là? Vous écoutez
Pink Floyd?
J'ai des
provinciales. Ouais. Oui, mais je sais pas. C'est une c'est une musique extraordinairement
c'est planant. Hein.
Oui, c'est planant. C'est je sais pas. Moi, j'avais 15 ans à peu près. Oui, 15-20 ans. Et j'étais passionné par cette ambiance qu'apporte Pink Floyd, qui est vraiment pour moi représentative de toute la période et de la fin du Peace and Love et de la période hippie, tout ça. Quoi. Enfin, pour moi, C'est pas de la musique qu'on danse, c'est de la musique qu'on écoute.
Oui, c'est ça. Oui. Ah oui, clairement.
Et en 75, Jean-Hugues, vous êtes admis.
Comment ça, à toi?
Avant le conservatoire, j'ai dit une bêtise. Non, je t'ai coupé, pardon, je t'ai interrompu.
Pour une fois.
C'est que je voulais. Oui, non, mais non. Vous êtes admis à l'UIT de journalisme de Tours.
Oui.
Alors en fait, vous avez tenté le concours en vous disant, comme ça, j'ai au moins ça.
Oui, c'est ça, voilà. Exactement. Mais je voulais pas du tout faire l'UIT de journalisme de Tours. Et j'espérais bien décrocher
le conservatoire.
Le conservatoire. Et j'ai eu cette chance fantastique de réussir. Et ça a tout bouleversé, quoi. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé vraiment en phase avec ce que je voulais faire, quoi.
Et vous suiviez les cours d'Antoine Vitesse.
Ouais.
Et vous racontez dans les interviews que votre premier contact à Paris avec. Vous connaissiez personne. Votre premier contact, en fait, c'était les morts.
Oui, c'est vrai. Je suis monté là-haut.
Comme Michel Drucker.
Non, vous alliez beaucoup vous promener dans les cimetières, c'est ça?
Oui. J'ai toujours beaucoup aimé me promener dans les cimetières. Et j'aime toujours ça.
Pardon, il y a une différence entre vouloir aller se recueillir sur la tombe d'un auteur ou d'un poète célèbre et aller dans les cimetières.
Oui, c'est ça. Non, j'allais voir Baudelaire au cimetière Montparnasse.
Ouais.
C'était le poète qui. Qui m'inspirait, qui m'a toujours inspiré, voilà, donc j'allais le voir et puis après, je suis rentré au conservatoire et
il fallait absolument être à Paris.
Il fallait être à Paris, oui, parce que
les conservatoires, il y en a partout en France, mais pourquoi?
Oui, mais parce qu'en fait l'idée c'était de pas faire c'était de faire du théâtre 24/24. Ça n'était pas d'en faire que le week-end, vous voyez, et faire autre chose à côté. Pour moi, c'était la terreur, ça. Donc, vis-à-vis de mes parents, j'ai écrit au conservatoire. Ils m'ont envoyé un petit billet pour m'inscrire au concours d'entrée. Et j'avais pas fait de théâtre, rien du tout. Moi, de toute façon, je voulais faire du cinéma. C'était ça qui m'intéressait vraiment. Donc, j'ai tenté le concours du conservatoire et à ma grande stupeur, j'ai réussi du premier coup à y rentrer.
C'est
ça a été formidable.
Prof, un ami, quelqu'un qui vous a dit, toi, t'es fait pour ça, avant de caresser le rêve de le faire?
Non, pas vraiment.
Personne.
Pas vraiment, non. Des gens m'ont dit que quand j'étais petit, j'étais très extraverti. Mais après, finalement, ça a pas mal changé. Parce que, finalement, je suis plutôt timide. Si j'avais été un bon musicien, j'aurais adoré faire de la musique.
Parce que vous faites de la guitare, vous dites tous les jours, faites de la guitare électrique.
Oui, j'en fais le plus possible, ouais. Oui, quand je tourne pas. Ouais.
Comme un exercice, comme un musicien justement qui répète ses gammes. Il faut travailler, retravailler.
Oui, c'est ça. Vous connaissez ça, vous qui avez créé Taratata, vous savez.
Je les fréquente, j'ai pas la prétention de jouer.
Non, mais vous avez, dialogué avec tellement d'artistes que vous devez savoir.
Considèrent plus la guitare comme étant un instrument, qu'ils le considèrent comme étant une partie d'eux-mêmes. Quoi.
Oui.
Comme vous,
c'est
et la caméra. Quoi.
Une extension. Voilà. Oui, c'est ça. En fait, ce que j'ai pas réussi avec la guitare, c'est ce que j'ai peut-être un peu mieux réussi avec la caméra. Mmh.
En 82, vous écoutiez, on parlait de guitare. Prince. Espèce de génie capable de tout faire, de jouer tous les instruments.
C'est mon grand chagrin.
C'est-à-dire?
Le 21 avril.
La disparition.
C'est affreux. Pour moi, c'est.
Plus que celle de John Lennon, plus que celle de.
Oui, oui. Pour moi, c'est un génie absolu. C'est un. C'est comme un Mozart pour moi. C'est Mozart, doublé d'Hendrix. C'est un showman, un performeur absolument incroyable.
Qui prenait beaucoup de risques artistiquement, beaucoup de risques.
Oui, mais ouais, énormément de risques. Et si vous voulez, là, on écoute quelque chose de standard qui a été enregistré en studio, etc. Mais tous les lives de Prince sont à tomber par terre.
Ouais.
Parce que c'est jamais, c'est jamais complètement la même chose. C'est tout le temps réenvisagé. Et enfin, je sais pas, je veux dire, la mort, c'est vraiment une perte, une énorme perte.
En 82, vous, Jean-Hugues Anglade, vous, j'ai peur de poser la question, vous tournez dans L'homme blessé de Patrice Chéreau.
Il a pas vu. Non, il a pas vu, il a pas vu.
Il est sorti l'année d'après, je sais pas si vous l'avez
ma mère,
vu.
Mère l'a pas vu.
En tout cas, c'est aussi le début d'une grande histoire avec Chéreau, parce oui. que finalement, vous racontez que la première fois que vous avez croisé Chéreau, c'était à Nanterre.
Oui.
Et il travaillait sur L'homme blessé, sur ce projet. Il allait voir Hervé Guibert pour ça.
Moi, je suis allé voir Hervé Guibert pour ça.
Non, vous aviez croisé Chéreau au moment où Chéreau entamait cette collaboration-là, ouais.
Mais je connaissais Hervé Guibert, Coltès aussi, ouais. Tous ces gens qui gravitaient autour de Patrice. Et effectivement, quand il m'a proposé ce rôle, c'était un rôle très dur et je dois dire que j'étais pas très à l'aise, même dans le registre, même dans l'univers et tout ça, mais que j'étais évidemment conscient de la chance qui m'était offerte de tenir le.
Même ce malaise n'aide pas justement au jeu et.
Oui, mais il y avait des décors, des choses qui étaient difficiles pour un jeune comédien plus tard on s'en sert effectivement, on essaye de relativiser. Mais quand on commence, comme c'était le cas là, c'était plus frontal, c'était plus dur. Mais j'ai commencé avec du lourd.
Il était autoritaire, Chéreau, sur le tournage ?
Il n'était pas simple. Oui, il est. Quand il veut quelque chose, quand il voulait quelque chose, il l'obtenait. Ou alors il fallait non, vraiment.
On imagine que c'est le cas de tous les réalisateurs, ça.
Non, parce qu'il y a des réalisateurs avec lesquels. Ça vibre pas sur la même onde. C'est-à-dire qu'avec Chéreau, on était très. C'était toujours sur la tension, il appuyait là où ça faisait mal.
Et par vice ou pour obtenir quelque chose de précis?
Par perversité. Non, par vice. Non, pas du tout. Je crois que c'était parce que il aimait. Il aimait que ce que ces personnages vibrent et transmettent quelque chose de et que l'acteur devait être lié à ça et que il devait engager sa propre chair là-dedans. C'était.
On va pas faire de l'analyse à deux balles, mais commencé à tourner avec lui, avec L'homme blessé, pour finir avec La persécution.
Oui, c'est
en
ça.
2009,
les persécutions, oui. Effectivement.
La boucle était bouclée, oui.
Oui, oui.
Ça sent la joie de vivre.
En 86, là encore, une bête de scène. Oh. The Boss. Toujours des textes très sociaux, très engagés, très c'est le chanteur très très à gauche pour les Américains en tout cas,
oui.
Considéré comme tel.
Non, mais alors écoutez-moi, à l'époque je n'avais pas appris l'anglais. Je l'ai appris après 37-2 en allant un petit peu aux États-Unis. Et puis donc je n'analysais pas vraiment les paroles de Springsteen, mais je sais que il a fait tout le tournage de 37-2 dans mes oreilles, quoi.
Enfin, le paradoxe, c'est que Born in the USA a été pris, pour ceux qui ne parlaient pas anglais, justement, comme un chant nationaliste. Or,
oui.
C'est tout l'inverse.
Oui.
Il se moque, justement, et il pointe du doigt ceux qui disent simplement vous allez mourir sous un drapeau parce que vous êtes né aux États-Unis, vous allez tuer les autres parce que c'est... L'État qui vous demande de le faire, et c'est ça qui dénonçait lui.
Ouais, merci de me la.
Non, mais c'est dans le texte.
Donc si je n'ai pas réécouté l'album depuis très longtemps, maintenant je pourrais me pencher plus sur les paroles.
Vous avez plein de trucs à rattraper, hein, des films, des albums. Vivement les vacances.
Et 86, c'est donc 37-2 le matin, ce film aussi qui est entré dans la légende de Jean-Jacques Benex, avec, on s'en souvient tous, de cette scène torride en ouverture du film entre vous et Béatrice Dalle.
Zorg et Betty.
Ouais. Et vous dites que vous ne parveniez plus sur le tournage à faire la différence entre la réalité et une forme de fiction.
Oui, c'était pour tout vous dire, en fait, il y avait une telle ambiance sur ce tournage que ça ne concernait même pas uniquement moi et Betty, ça concernait tous les gens du tournage. C'était un film sur la passion et il y a eu plein d'histoires d'amour sur le tournage. C'était tout à fait magique. C'est le film qui marque le. Enfin voilà, on passe en. Voilà, là on roule à 250 fenêtres ouvertes et avec une envie de vivre, une envie de comment dire de s'aimer, une envie de pas suivre les codes et le code de la route, si j'ose dire, le code de la vie. On a envie ça raconte cette histoire et moi je me suis fait prendre au jeu parce que j'étais un jeune acteur et c'est vrai que on mélangeait beaucoup la vie privée et les scènes du film.
C'est un sentiment quoi d'immortalité tout d'un coup de.
Ouais, c'est comme un. C'est comme si vous étiez, comment dire, à la fois dans un. acteur d'un film qui vous inspire, qui vous exalte, et en même temps. Spectateur de ce film. Donc c'était un souvenir merveilleux.
Mais vous étiez amoureux de Béatrice Dalle ?
Oui, j'étais amoureux de Béatrice, oui. Comme Béatrice devait l'être aussi un petit peu. Vous savez, c'est...
Non, parce que vous dites pas de frontière entre la réalité, nos histoires d'amour et ce qui se passait dans le film.
Oui, je crois que maintenant, 30 ans après, je peux dire qu'il y a
prescription. D'accord, non, mais je savais pas.
Il y avait un feeling... Il y avait des sentiments très forts, oui, qui nous unissaient, oui. Bah oui, c'est le thème du film.
Oui, mais vous êtes acteur.
Il n'y avait pas de frontières véritablement.
C'est quasiment inéluctable là, ouais.
Ouais.
Revenons à cette recluse et.
Revenons à une araignée.
Ouais. Il est un peu perturbé, Nagui.
À une araignée et surtout à la peur des araignées. On a demandé à Samuel Doc, merci Samuel, de venir à ce micro. Vous êtes psychologue clinicien. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans le public, mais on peut entendre facilement quelqu'un crier à la vue d'une araignée, quelle que soit la taille de l'araignée. La peur des araignées est quelque chose de relativement fréquent.
Oui, tout à fait. Il y a eu un magazine anglais qui l'an dernier a répertorié les phobies les plus fréquentes et il l'a classé en 8e position, ce qui est quand même pas mal, sachant qu'on a répertorié plus de 400 phobies existantes, des plus absurdes comme la phobie des légumes verts, la lacanophobie, la phobie des lapins, cuniculophobie. Donc vous voyez, c'est tout un monde, la phobie.
Et alors quelle est la phobie la plus importante ?
La phobie la plus importante, c'est la phobie sociale, la difficulté de se mettre en lien avec les autres. Ouais, c'est la plus répandue.
D'accord. Ouais, ça doit être particulièrement dur. Pour eux, oui. Est-ce que c'est grave d'avoir peur des araignées? Parce qu'il y en a partout, et on n'en a pas qu'au plafond. Alors, mais que ce soit en ville ou...
Il paraît qu'on en avale toutes les nuits.
C'est ce qu'on dit, mais ouais. Sur cette notion de gravité, ça pose question, ouais. Puisque entre la personne
moi,
qui...
Moi, oui, en tout cas.
Tu avales des araignées toutes les nuits.
Mais si, tu dors la bouche ouverte, tu sais pas.
Non, mais bah, si, tu dors la bouche ouverte. Mais des micro-araignées.
Ah bon?
Nagui, me faites pas croire qu'un moment dans la journée, vous fermez la bouche. C'est 24 heures sur 24 que vous l'ouvrez.
Sauf quand il y a une araignée qui arrive.
Entre la personne qui va avoir une attaque de panique à la simple vue d'une image d'araignée et une autre qui, en se forçant, arrive à la prendre avec un verre et à la sortir, il y a tout un monde, mais c'est vrai que ça peut devenir extrêmement handicapant, même si...
Alors pourquoi avoir plus peur d'une araignée que d'une mouche, que n'importe quelle
que d'un serpent.
Bête qui se balade? Oui, ouais, serpent encore, on peut penser au venin et aux piqûres. Est-ce que l'araignée, c'est ça aussi, c'est la mort?
Alors si on a une approche un petit peu psychanalytique, on peut penser que l'araignée a une espèce d'empreinte symbolique très forte, maternelle. D'ailleurs, même on pense au mythe grec d'Arachné, hein, mm-hmm. cette personne qui voulait faire un concours de tissage avec Athéna et qui a été punie très sévèrement en se transformant en araignée. Donc il y a quand même cette inconscient collectif. Il y a une vraie empreinte quand même culturelle.
Mais on pense pas à tout ça quand on a peur d'une araignée.
On n'y pense pas, non. Ce sont des choses qui transitent par l'inconscient collectif et par l'inconscient individuel. Mais on peut aussi se demander si c'est pas ce qu'on appellerait une pseudophobie, c'est-à-dire une phobie qui s'apprend par apprentissage culturel. Vous savez, quand les dents de la mer sont sorties, l'été qui a suivi, il y a eu une sorte de désertification des plages parce que les personnes avaient peur de se faire bouffer par un requin. Mmh.
Que l'on ne voit jamais dans le film.
Voilà, qu'on ne voit pas. Et bah ouais.
Donc, est-ce que c'est culturel? Ça veut dire selon les parties l'endroit du monde où on vit, est-ce qu'on a peur ou pas des araignées? Parce que je crois savoir, par exemple, qu'on ne tue pas les araignées dans plusieurs religions. En Inde, on les tue pas parce que c'est des animaux. Chez les musulmans, on les tue pas non plus parce que, je sais pas, il y a une histoire aussi dans le texte sacré. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des endroits où on n'a pas peur des araignées?
C'est possible, oui. Et puis ça signifie aussi qu'il y a la rencontre entre une problématique individuelle, personnelle, ouais. et en même temps un socle culturel qui peut être très fort. Le phobique va aussi s'appuyer sur les imageries qui sont autour de lui. Si on pense à la manière dont Freud a mis à jour les explications autour de la phobie, c'était le petit Hans qui avait peur des chevaux, et eh bien à cette époque, il y avait beaucoup de chevaux, les gens voyageaient en calèche, et ça explique un petit peu aussi pourquoi il a construit cet objet phobique.
Quelle est, pardon, la nuance ou le degré de différence entre une peur et une phobie?
Alors, la peur est une émotion primaire, tandis que la phobie, c'est un effroi qui peut être caractérisé par son caractère irrationnel, je parlais des lapins et des petits pois tout à l'heure, ou par son intensité, c'est-à-dire à partir du moment où
il peut être dans le résultat aussi, on va être tétanisé, bloqué, et ne pas pouvoir sortir d'une pièce parce qu'une araignée est là.
Même si ce qui est important, c'est que on s'en rend compte, les personnalités phobiques ont aussi souvent un objet contraphobique, c'est-à-dire une manière d'éviter ce qui leur fait peur, parce qu'il y a ce jeu avec une angoisse inconsciente qui reste très fort.
Alors vous êtes psychologue clinicien, est-ce que vous soignez des personnes atteintes d'arachnophobie, on dit?
Alors, ça m'est arrivé une fois, mais vous savez, c'est rare que les personnes consultent juste pour une phobie. En général, c'est plus un symptôme associé. Et la phobie qu'on voit le plus aujourd'hui, c'est la phobie scolaire. Donc, pas trop de rapport, en fait.
Non, est-ce que ça se soigne, alors?
Ah, ça se soigne, oui, tout à fait. On parle beaucoup des théories cognitivo-comportementales, c'est-à-dire, vous savez, toutes ces méthodes, où d'abord il s'agit de voir une image d'araignée, puis après peut-être une en vrai, on désensibilise les personnes. Moi, je suis psychanalyste, donc j'ai tendance à penser qu'un symptôme a un sens, qu'il faut le comprendre, réussir à faire parler la personne, élaborer, pour savoir pourquoi est-ce qu'un jour, dans son existence, a surgi cette angoisse, et pour pouvoir s'en débarrasser.
Ou dans son ADN, puisqu'on peut transporter des peurs, des phobies qui viennent de nos ancêtres, sans même en comprendre l'explication.
Ou alors peut-être même une communication, et c'est intéressant, je trouve, que vous fassiez cette remarque, d'inconscient à inconscient, à travers les générations.
J'ai pas bien entendu ce que vous avez dit.
C'était une boulette.
C'est génial.
Il y a peut-être quelque chose plus de transgénérationnel ou de psyché à psyché va se transmettre quelque chose, oui, d'un contenu pulsionnel.
Mais ça, c'est prouvé, ça existe.
En tout cas, les cliniciens bossent beaucoup sur ces questions-là et on s'en rend compte. Il y a vraiment des choses qui peuvent se transmettre, surtout quand elles ne sont pas dites. Dolto avait cette très belle formule. Elle disait « Ce que la première génération ne dit pas, la seconde le porte dans son corps ». Et je trouve que c'est assez joli pour définir ce mécanisme.
Pour en venir à la peur des animaux, des araignées en particulier, est-ce que le fait qu'elles puissent justement se balader partout la nuit, tomber dans la bouche pendant qu'on a la bouche ouverte, se glisser sous les draps, enfin ce côté petite bête fait plus peur que, qu'un chien ou qu'une girafe.
Chaque personne est quand même singulière dans son rapport.
Beaucoup plus rare.
Faut qu'il y ait des girafes dans la
planète.
Je connais
des exemples.
Je suis sûr que ça existe.
Mais ça, c'est Nagui et son rapport à la hauteur sous plafond.
Et le côté peut-être phallique.
Minimum
6
mètres. Minimum
6
mètres.
Non, mais ça va pas.
Sinon, on a tous nos rapports. Voilà. L'objet est très fusé.
Mais tu veux faire un concours là maintenant, quoi?
Je
fais cette blague puisque il y a toujours quand même une.
Non, mais il y en a assez pour le faire ici.
Ce que nous racontait Freud, c'est quand même qu'il y a une angoisse de castration très forte derrière la notion de phobie. Donc c'est. J'en profite pour donner ces petites pistes théoriques à vos auditeurs.
Très bien,
pas du tout dirigé.
Et quel rapport avec la
fil?
Justement, c'est la petite bête, c'est donc.
Ou le sexe maternel éventuellement, quelque chose qui peut être bon.
Associé à la mère.
Associé à la mère, effectivement.
L'araignée est associée à la mère.
De manière générale, on a tendance à penser, oui, que c'est lié à cette menace de castration que peut représenter le sexe maternel. Bon. Je vois le public tiquer. Je sais que c'est toujours difficile de faire vivre l'enseignement de Freud, mais c'est des choses qui s'entendent. Après, il n'y a pas que ça. Anna Freud parlait des terreurs archaïques, c'est-à-dire de tout cet univers de l'enfant avec les ombres, les croque-mitaines. Donc, au moment où il est mal séparé de la mère durant les premiers mois de la vie, et peut-être aussi que cette phobie-là puise dans tout cet univers préhistorique de l'enfance.
Vous signez Punchline des ados chez les psys. C'est publié chez First Edition, chez Le Psy, pardon. Chez Force Édition. Merci Samuel Doc d'être venu.
Merci d'avoir reçu.
C'est gentil, un plaisir. Tanguy Passureau, bonjour Tanguy.
Bonjour Nagui.
Le sultan de Brunei a eu la Légion d'honneur.
Oui, bah comme l'ensemble des dictateurs, surtout quand ils nous vendent du pétrole. Alors pour lui, ça s'est passé en 96, l'année de sortie de la chanson Soirée Disco par Boris, pour vous dire à quel point 96 a été néfaste. Seulement 23 ans plus tard, le même sultan chez lui vient d'établir la charia, donc il faudrait qu'il nous renvoie la Légion à Chronopost, ce serait bien.
Oui, ce serait gentil. Voilà. On en parle après les infos de midi. Avec Isaac Adobudadi, Tanguy Passureau, Jérémy Crédville, Tom Villa, Daniel Lebrun.
Bonjour Jérémy.
Et notre invité Jean-Luc Anglade.
Bravo.
Quand sort La Recluse, la première partie a été un énorme succès, leader, toute chaîne confondue, sur France 2. J'imagine que vous avez reçu des coups de téléphone de la direction ou des producteurs fiers et contents du résultat.
Oui. Très heureux. Non, un petit mot, tout simple.
Allô.
Très bien.
Encore.
On est très heureux du chiffre, voilà, de l'audimat, et voilà, ça fait plaisir.
Les succès des les séries précédentes qui avaient été, on parle évidemment de Fred Vargas, mais Braco aussi, ça avait été un succès marquant pour vous.
Mais c'est pas la même chose, c'est une chaîne... Crypté,
c'est
donc
vrai.
En fait, il faut un abonnement, donc le rapport aux chiffres n'est pas
les
le
millions,
même.
Les millions ne sont pas les mêmes.
Les millions ne sont pas les mêmes, et puis il y a les replays aussi, il y a tout ce qu'on...
Le streaming.
Ce mais Braco, il y a eu un gros carton jusqu'au dernier. Ouais.
La manière de travailler de José Dayan, elle est venue à ce micro la semaine dernière, nous dire qu'elle tournait pratiquement tout en une prise, très rapidement.
Oui, c'est vrai. Ce qui peut poser des problèmes... quand on a des textes aussi denses que ce Vargas là,
vous trouvez l'intention immédiate.
Ben
juste.
Oui, non seulement trouver l'intention, mais trouver les mots.
non, mais est-ce que c'est plus un problème de mémoire ou de jeu?
Et c'est un problème de pression, si vous voulez. C'est les deux. La pression. Comment dire, on rêve tous de faire une prise qui soit un strike, hein, comme on dit.
Ouais,
mais,
au bowling.
Sur des textes comme ça aussi, comment dire, compliqués, puisque c'est, je vous dis encore une fois, on tourne dans le désordre et en plus on tourne deux films. Donc on crossboard tout, si vous voulez. Donc on sait plus où on en est. Et
vous aimeriez pouvoir en faire plus, vous, pour ajuster votre...
Non, là, je crois que pour être vraiment plus confortable, il faut, comment dire, travailler 3 mois le scénario avant, vraiment. Là,
alors c'est étonnant parce que José Dayan, à ce micro, nous disait justement que c'était ce que les comédiens aimaient chez elle, c'est la première scène, c'est on perd pas de temps, c'est on tourne et c'est...
Oui, mais quand on a 3 mois à dire, ça va, mais ouais. Quand on a 2 pages à sortir,
comme
c'est le cas d'Adamsberg, parce que d'Adamsberg, il va de déduction en déduction, d'intuition en... vous voyez, il soulève sans arrêt des possibilités, et donc on s'y perd à le suivre. Parfois même le spectateur dit mais où est-ce qu'il va, pourquoi il s'intéresse à cette araignée, pourquoi et je vous dis je me suis pris quelquefois les pieds dans le tapis, c'est vrai, parce que c'était vraiment un personnage très
complexe,
très bavard.
Mais vous étiez habitué pourtant sur Braco à crossborder, à faire des scènes.
Oui,
de
c'est pas des enquêtes sur Braco. C'est pas des enquêtes sur Braco, c'est plus compliqué sur les enquêtes.
C'est moins psychologique.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on est dans l'action sur Braco. On court après les méchants. Et effectivement, on n'est pas, on est, c'est pas du tout le même système. Il n'y a pas d'investigation vraiment.
En tout cas, ça passe ce mercredi sur France 2 à 21h, quand sort La Recluse, la deuxième partie avec Jean-Hugues Anglade, Sylvie Testu, qui est absolument,
elle est merveilleuse.
Formidable. Ah, non, mais je l'adore tellement, cette actrice. Jacques Spisser, Elisabeth Depardieu, Jérôme Kircher, Elisabeth Depardieu, d'ailleurs, et je vous ai déjà expliqué à ce micro qu'elle avait,
elle
avait du mal à la convaincre pour avoir ce personnage, et après avoir lu, elle avait accepté qu'elle ne regrettait pas. Et les participations de Corinne Maziro et de Pierre Arditi, toujours aussi fort, hein, Pierre. Alors oui, lui, je pense que une prise, ça lui fait pas peur, ça l'amuse même à la limite.
Oui, il est très habile, très adroit.
Oui, il a moins de texte hein, aussi, Ah,
oui. Il avait il est remarquable.
Non, c'est un grand. Voici Tanguy Passure. Oh Tanguy, vous avez la Légion d'honneur, moi, ça vous irait bien.
Ouais, bah moi aussi, ça me ferait un truc à raconter à mes voisins quand je les croise, parce que ce week-end, il a fait froid pour une mi-avril, donc on avait de quoi tchatcher. Mais j'ai regardé toute la semaine, on est dans la moyenne des normales saisonnières, on va jamais tenir. Mais bon, je ne mérite pas la Légion d'honneur, pas même les arts et lettres. Si le gouvernement tenait vraiment à me remercier, eu égard à ce que j'ai fait pour l'instant pour la France, j'aurais droit au maximum à un bisou de Nicole Belloubet. Alors que Michel Houellebecq, lui, sera décoré jeudi. Hein, jusqu'à présent, c'était lui qui se décorait tout seul, et ça se voyait un peu. Et là, on vient de réaliser qu'avait été fait grand croix de la Légion d'honneur le sultan de Brunei, Hassan al-Bolkiah, en 96, la préhistoire de notre pays, puisqu'on n'était même pas encore champion du monde. Alors le sultan de Brunei a plus de blé qu'un meilleur avril, c'est le deuxième homme le plus riche du monde. Et grâce au pétrole, il a 5000 voitures de luxe, dont 360 Ferrari, 360 Bentley, 130 Rolls-Royce. À lui seul, il a le bilan carbone de toute la Creuse sur 120 ans. Son palais est trois fois plus grand que Buckingham, 1788 pièces. Ouais. La plupart, il n'a jamais eu le temps d'y aller. Hein, fois, il a joué à cache-cache avec son neveu. On a retrouvé le petit 4 ans plus tard, tout sec. Ils l'ont mis sur la cheminée pour décorer. Oh. En 97, le sultan s'est payé Céline Dion pour un concert privé. Elle s'est mise à brailler. Le neveu sur la cheminée s'est réveillé, un miracle, au cri de « Ah non, pas ça, purée !» et est parti en courant. Bref, personne ne lui résiste. Le sultan peut faire un chèque à Kim Kardashian juste pour qu'elle s'assied sur des fruits à coque un jour où il a perdu son casse-noix. Elle vient parce qu'à part Jean-Hugues Anglade et Nagui, les stars sont dévendues. Enfin, certains anonymes comme Daniel Morin sont très bien également. Donc rien d'étonnant à ce qu'en 96, on lui ait remis la Légion d'honneur, parce que tous nos gus au pouvoir, ils kiffent les bifetons. La République, c'est un clip de Booba, mais sans casquette et avec plus de vulgarité. Tous les dictateurs l'ont eu. Bachar al-Assad, Manuel Noriega, dictateur du Panama en 87 par Mitterrand. Ensuite, il a été déchu. Et Franco. Alors en 2017, un petit fils de républicain espagnol a demandé à ce qu'on la lui retire. La réponse a été non, car selon la justice, la mort de Franco l'empêchait de se défendre. Ce qui techniquement est vrai. Hein. Alors depuis, il est toujours mort. Hein. On dira tout ce qu'on veut de Franco, mais en fait, il était d'une grande constance. Donc là-haut, si, hein, là-haut, il est toujours en train de parader avec sa breloque. Bref, la Légion d'honneur, il y a tellement de pourriture qu'ils ont eu, qu'on devrait pouvoir les changer auprès de Macron quand on est nommé, contre un bon d'achat ou un week-end à Center Park. Et Hassan al-Sultan l'a eu au ski. Elle a eu aussi. Ce qui ne serait pas... Très peu de ski à Brunei. Hein. L'a eu aussi, ce qui ne serait pas gênant si ce dernier, malgré un prénom gay-friendly, hein, Hassan al, est un blaze qui à Mykonos vous garantit l'entrée gratuite de 80% des boîtes, bah, n'avait pas décidé d'appliquer la charia dans son pays envers les homosexuels. S'ils se font choper, c'est la mort. Par lapidation, on vous jette des pierres, ce qui serait impossible à faire au Portugal parce qu'elles sont toutes collées les unes aux autres avec du ciment lors de travaux de terrassement. Mais à Brunei, ça peut se faire. Le nouveau code pénal prévoit aussi l'amputation d'une main ou d'un pied pour les voleurs. L'avantage quand ils vous coupent vos pieds, c'est qu'au moins vous, eh ben, ils sont sûrs que vous n'avez plus voler chez Aram.
Mais en 96, quand il a reçu la Légion d'honneur, il était aussi radical ?
Mais pas du tout, Nagui, il faisait du nudisme, il fumait des spliffs. Aux soirées mousse du Queen, quand il venait à Paris, c'était pas le dernier à faire les oreilles de lapin quand Chantal Goya venait chanter. Mais avec l'âge, on devient conservateur. Moi-même, qui plus jeune était rock'n'roll, un soir j'ai bouffé des champignons. Ok, c'était des cèpes, mais enfin, à Carrefour où je les avais pris, ils auraient pu se tromper, mettre des amanites et je serais mort à 27 piges dans mon vomi comme Jimi Hendrix. Et ben, en vieillissant, je suis devenu plan-plan, à tel point sachant que je trouve François Bayrou un peu ouf. Là, Hassan Al-Bolkiah a 72 ans, donc il se tourne vers la religion sur la fin, le coup classique. Quand, comme lui, on s'est plongé dans l'alcool, le jeu, la luxure, et qu'on se dit fichtre, je me suis tellement éclaté qu'au ciel, je vais me taper le bootcamp avec levé à 6h et corvée de patates pour tout le groupe. Alors, à noter que des stars ont réagi, dont George Clooney, le vendeur de café, l'équivalent américain de grand-mère, hein, chez nous, qui a demandé le boycott des hôtels appartenant au sultan de Brunei. Alors, à Paris, Plaza Athénée et Meurice. Attention, pas Guillaume Meurice, hein. Si vous couchez avec lui dans les WC à France Inter, vous ne serez pas lapidé. Non, l'hôtel Meurice. C'est comme Guillaume Meurice, mais avec des ascenseurs et sans l'aspect social. Elton John aussi a appelé au boycott de ses palaces. Un boycott que tous ceux qui touchent moins de 80 000 euros par mois auront appliqué d'eux-mêmes depuis toujours, hein, puisque le pauvre est vertueux. Et en France, Christina Cordula, hein, une brésilienne qui fait du tuning mais sur des gens. Alors elle a dit, il faut taper le sultan là où ça lui fait mal, au portefeuille. Le souci étant que l'autre a 40 milliards de dollars sur son livret Z. Hein, c'est comme un livret A, mais tellement gros qu'il a traversé l'alphabet. Donc en gros, le boycott, il s'en moque. Il a répondu que ça se fera quand même. Alors ça, ce sont des lapidations, des amputations, selon qu'on est gay, qu'on a été infidèle ou qu'on a volé. Donc c'est un psychopathe. Alors sa légion d'honneur, Hassan Al, se doute un peu de l'endroit où il peut la mettre. Encore faut-il que Jean-Yves Le Drian, au Quai d'Orsay, ait le courage de l'appeler pour lui dire « C'est fini, je te quitte, tu gardes tes 5000 voitures, bébé, mais tu me rends ma légion. »
Merci, Tony Patio. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Quand sort la recluse, la deuxième partie de ce téléfilm avec l'intrigue de Fred Vargas, avec la réalisation de José Dayan et ce joli casting. D'ailleurs, vous êtes forcément Adamsberg, ça c'est, vous êtes un incontournable. Est-ce que vous discutez avec José Dayan de vos partenaires, de ceux avec lesquels vous avez envie de partager, des joutes?
Non, généralement, elle m'informe des gens, voilà, avec lesquels elle aimerait travailler. Par exemple, pour Sylvie Testu, ce fut le cas. Et moi, j'aime beaucoup Sylvie. On avait déjà travaillé ensemble, donc j'étais très heureux de la retrouver. Puis Jacques Spiesser, je le connaissais. Jérôme Kircher aussi.
Alors, vous travaillez comment s'il n'y a qu'une prise, entre guillemets, et pas beaucoup de temps de travail, est-ce qu'il y a des lectures qui se font avant? Est-ce qu'il y a des rencontres?
Non, il n'y a rien.
Pas d'italienne,
non.
pas d'allemande, rien.
Il n'y a rien. Tu dois arriver avec ton texte su.
Et être bon tout de suite.
Et puis oui, voilà. Parce qu'on tourne énormément par jour, hein. On te fait 9 minutes par jour, c'est énorme. Quand au cinéma, on fait pour donner un ordre d'idée aux gens qui sont là, qui nous écoutent. On tourne généralement 3 minutes, c'est déjà pas mal.
Donc là, c'est 3 fois plus vite que le cinéma.
Là, c'est 9 minutes avec... et après, tout dépend si c'est 9 minutes, où on a 3 pages de texte à débiter, ou si c'est 9 minutes à faire le va-et-vient dans un couloir, c'est pas...
Oui, enfin, le jeu reste quand même difficile, parce que c'est pas parce qu'on n'a pas de texte que l'on joue
c'est
simple.
Non.
Est-ce que la mémoire, ce travail, oui, c'est un muscle, on le sait, mais comment vous la pratiquez?
Je travaille de façon très scolaire, c'est-à-dire que je m'y prends très longtemps à l'avance, et je travaille avec la mémoire profonde, donc j'imprime très profondément, donc ça prend du temps. Donc en fait, je travaille... comme si j'allais au théâtre, si vous voulez, je sais tout mon scénario avant de tourner. Si bien que s'il y a un problème de temps, on appelle des cover sets. Vous savez, on a toujours des...
C'est quoi des cover sets?
Un cover set, c'est un décor de...
rechange
de rechange.
Ah, on peut se replier sur un autre décor si
jamais c'est impossible. Donc en fait, ça me permet de travailler dans tous les sens, dans toutes les situations.
Et d'être prêt quoi qu'il arrive.
Et de ne pas être pris... parce que je trouve que le cauchemar de l'acteur, c'est vraiment le problème de texte. C'est pour ça que quand les acteurs vieillissent, ils disent « Oh là là, j'ai plus la même mémoire qu'avant », etc. Mais c'est vrai, c'est faux, parce que... Justement, pour garder la mémoire, il faut beaucoup l'entretenir. Donc, il faut créer de la matière cérébrale. Et en travaillant comme ça sur des textes, Même quand on a 70, 80 ans, on peut, comment dire, parfaitement s'en sortir.
Le même problème que Daniel Bourin. Le cauchemar, c'est son texte.
Merci. La mise en valeur.
Toujours. Service.
S'il avait été français, il aurait mérité comme sépulture le Panthéon. De qui parle-je? Eh bien, de Jan Karlbaat. Jan Karlbaat. Est-ce qu'on peut appeler un militant de la cause humaine? Oui, ce ressortissant des Pays-Bas, le pays dont les paysages donnent envie de se retirer la vie, a consacré son existence professionnelle et personnelle à la donner, cette vie justement. Directeur d'une banque du sperme, il serait le père biologique de 49 enfants, nés d'une fécondation in vitro. Bravo, John! Bravo! J'espère que ton peuple est fier de toi. Eh ben, vous savez quoi? Les parents sont pas contents. Mais quelle bande d'ingrats! C'est un saint homme, ce Jan Karlbaat. Donner son sperme est un acte de pure générosité. Demandez à Nagui. Nagui, on le sait pas, ou pas, ou trop peu, est un homme généreux dans tous les sens du terme. Bon, Nagui, il donne à des associations, à des œuvres caritatives, et il arrive encore à trouver la force de donner, donner, donner pour la vie. D'ailleurs, en tant qu'homme pressé, il est à l'origine de la technique de don qui aujourd'hui porte le nom de FBI, fécondation brutale impulsive. Il est tellement généreux qu'il ne passe même pas par l'éprouvette. Il va directement voir la dame et donne tout ce qu'il a. Parfois, le papa n'est pas hyper d'accord, mais un petit selfie avec la star de France 2 et hop, tout s'arrange. Bravo et merci à toi aussi, Nagui. Pour en revenir à notre homme, ce bon vieux Jan, aujourd'hui mort, du coup moins fertile. Mais qu'est-ce que ça peut leur faire aux gens, que ce soit Jan Karlbaat ou bien un Jean-Louis ou un Sylvain ou un Pedro qui soit le donneur? Si ça se trouve, le Jean-Louis est un psychopathe de la pire espèce, et ses rejetons hériteront de son habileté à découper des cadavres. Sylvain pourrait être un ancien ministre, ah mon Dieu, encore pire, et Pedro un attaché de presse. Attaché de presse, la profession qui réunit en son sein le plus de satyres et de déviants au monde. Au moins, avec Jan Karlbaat, ils savent que leur gosse est le fruit d'un homme visionnaire et généreux qui avait fondé une entreprise au service des autres. Oui, bon, ok, les parents savent aussi, et accessoirement, ils savent que cet homme est un malade mental qui virait le sperme des donneurs pour fourguer le sien, tout ça dans le but de dominer le monde avec sa progéniture. Ah, ce qui est une échelle macro-démographique, ce que propose Éric Zemmour pour sauver la race. Quelle race? Ok, bonne question. Dommage, j'ai pas la réponse. À demain.
Merci, Benjamin.
France Inter, la bande originale, avec Nagui.
Quand sort la recluse, le Vargas, ça devient un nom commun maintenant, hein. Le Vargas, la deuxième partie, en tout cas, réalisée par José Dayan, se passe ce mercredi à 21h sur France 2. Est-ce que il y a eu des scènes qui étaient plus difficiles à jouer que d'autres? Je pense à celle notamment avec votre jumeau, les scènes de cauchemar, de souffrance cérébrale.
Non. Tout a été un peu compliqué, mais finalement, on est arrivé à bon port. Ce qui était dur, c'était de tourner en Camargue, parce qu'on était bouffé par les moustiques, ouais. C'était une horreur. Mais
qui est un animal beaucoup plus dangereux que l'araignée, finalement.
Oui, et c'est tout à l'heure, on parlait des araignées, mais vous m'auriez demandé quelle était la bestiole que je hais le plus au monde, je crois que c'est le moustique. Ça peut te pourrir tout, quoi. La vie, une nuit.
Mais ça transmet pas lui, ça transmet des maladies.
Ça fait un bruit épouvantable.
Et ça sert à quoi?
Effectivement.
Ça sert à plein de choses,
j'imagine. Le moustique?
Ah oui, j'imagine.
Ouais, les poissons, les
biodiversité.
Ça doit servir.
Des crapauds, des grenouilles qui les mangent, ouais.
Non, je pense que ça doit servir un peu plus.
Les chauves-souris.
Non.
Et les chauves-souris.
Ça nourrit les chauves-souris.
Dieu bénisse les chauves-souris.
Les chauves-souris mangent, je t'assure. Les chauves-souris mangent. Les chauves-souris mangent les moustiques. Alors, mon fils m'a raconté une blague sur les chauves-souris, Jean-Luc Dangland.
C'est vrai.
Savez-vous comment on appelle une chauve-souris qui a une perruque?
Non.
Une souris.
Une souris.
C'était la blague. Tous les jours, je vous proposerai la blague de mon fils.
Mais quelle famille d'artistes!
Et puis il a 37 ans, surtout. C'est bon.
Moins 30. C'est ça la différence. Vous parliez tout à l'heure de votre jeu et d'apprendre des textes comme si vous étiez au théâtre.
Oui. C'est ma formation de conservatoire.
C'est ce que j'allais dire, ouais. C'est ce qui fait quand même l'essence de votre métier, c'est le théâtre.
Oui, enfin, dans la technique d'apprentissage des textes, du spectre, des couleurs, tout ça vient du conservatoire, et c'est pour ça que je rends hommage à ceux qui m'ont formé, comme Antoine Vitesse ou Marcel Bluval, qui étaient vraiment des profs formidables.
Est-ce qu'on va vous retrouver au théâtre bientôt?
Mais le théâtre, non, parce que j'ai pas le...
Il faudrait savoir. Bah, venez de dire que c'est ce qui fait l'essence, c'est génial. Et merci à ceux qui m'ont donné le goût et l'envie. Et non.
Ça fait très longtemps que vous n'avez pas joué.
C'est une question de, là, après, c'est une question de, comment dire, de
d'argent.
Caractère. Une question d'argent aussi.
C'est vrai que je crois qu'au théâtre, les acteurs sont moins...
Bah, ça dépend dans le privé si...
Ils sont moins payés en tout cas que si, quand ils font une fiction ou quand ils font un film, oui.
Oui, bien sûr. Mais,
avec en plus obligation d'y être tous les soirs.
Oui, tout à fait. Mais bon, le théâtre peut être une passion, je le conçois complètement. Moi, je suis pas, je suis passionné davantage par la caméra. J'aime le frisson de la caméra. Je ne ferai pas de théâtre parce que je suis super timide et je trouve ça presque une imposture que de se mettre en spectacle devant les gens.
Parce que vous disiez quand vous étiez au conservatoire, que ce soit impudique d'être sur scène
et
de se donner en spectacle.
En vieillissant, je me suis rendu compte que la caméra était un filtre, c'était un intermédiaire.
Une protection.
Mais c'était une protection et puis surtout une bienveillance, voilà.
Alors la caméra, vous l'avez retrouvée pour M6 dans une série qui s'appelle Prise au piège.
Oui, c'est exact. Ouais.
Six épisodes. Ouais. Et alors là, l'auteur de cette série n'est autre que celui qui a créé Casa de Papel.
Oui, c'est ça. Oui, c'est une adaptation de la série espagnole, ça, non?
C'est ça, Derrière les barreaux.
Oui, c'est ça. Oui. Et effectivement.
C'est Alex Pigna qui avait créé Casa de Papel.
Oui.
Vous avez retrouvé dans votre
jeu. Vous une avez série jamais vu... très connue, voilà.
Vous n'avez jamais vu Casa de Papel?
Non, non, non.
C'est pas grave.
Ok.
J'ai vu que Breaking Bad.
Ah ouais. C'est bien, ce qui est déjà bien.
C'est bien. Et voyez La Reine Margot, j'en supplie. Je vous jure, ça va être super.
Bon, vous avez le temps.
Quels sont les autres projets ou les autres films sur lesquels vous travaillez ou avez envie de travailler?
Parce que vous savez, tant que c'est pas signé, moi, je...
Ok, on ne dit rien. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Oh là 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 là. Désolé pour Jean-Hugues Anglade et Guérémy Crédville. Comme je suis un salaud doublé d'un dingo, j'ai décidé de spoiler La Reine Margot à la fin de Voilà, de toute façon, personne ne va le voir.
Alors, si.
Désolé pour tous ceux qui se plaignaient des cadences infernales au travail. On l'a appris pendant l'émission, il y a pire, bien pire. Il nous l'a dit, Jean-Hugues Anglade, comédien, c'est jusqu'à 9 minutes par jour. Alors arrêtez de chialer, les gars. Désolé pour Nagui qui espérait se lancer dans le cinéma pour pouvoir mettre à poil face caméra. Jean-Gaudelade l'a dit, ça c'était le cinéma d'avant. En plus, ton corps a changé, Nagil, c'est rabougri. Ou alors c'est le porno, mais là tu peux pas non plus parce que ton corps n'a pas changé, toujours aussi rabougri. Désolé pour Luc Besson, proposer le remake du Grand Bleu à Jean-Hugues Anglade. J'ai cru comprendre que c'était pas gagné. En tout cas, pas de scène de planche. Le crapaud qui veut pas crever, à la limite, mais la planche, non.
Ça
va voir une autre blague de ton fils
demain.
Yes. J'ai hâte.
Merci Jean-Hugues Anglade d'être venu. Merci beaucoup. Sort la recluse avec, je le redis, Jacques Spizer, Sylvie Testu, Elisabeth Depardieu, Jérôme Kircher, Thierry Ancis, Émeric de Marigny, Bernard Verlet, Jacques Bonafé, Julia Duchossois, Christian Vadim, Issaka Sawadoko.
On se retrouve avec plaisir. Il était dans Walter. Il était formidable.
Mais il est top aussi. Corinne Maziro, évidemment. Pierre Arditi, on l'a dit. Tout ça réalisé par José Dayan. Ça a été un succès pour le numéro 1. À ne pas manquer, évidemment, mercredi sur France 2, 21h. La suite demain. Anne Charrier et Kad Merad seront nos invités. Tout de suite, ce sont les carnets de campagne de Philippe Bertrand.